Eh bien, que le Seigneur nous dirige dans ce temps de méditation de ta parole. Nous continuons dans le livre de Daniel et nous sommes maintenant au chapitre 8. Daniel chapitre 8. Daniel, c'est après Ézéchiel et juste avant Osée. Et Daniel était jeune adolescent quand il a été déporté en 605 à Babylone. Et dans le chapitre 1, il nous a dit que Daniel résolut de ne pas se souiller, instruit dès sa jeunesse des voies de Dieu, Daniel a décidé dans un pays païen de rester fidèle à son Dieu. Et Dieu l'a utilisé pour se révéler aux rois païens, aux nations et aussi à son peuple. Nous avons vu donc les 6 premiers chapitres concernent les visions que Daniel a interprétées, des visions des rois, des expériences qu'il a faites à Babylone, ses compagnons aussi, et nous sommes maintenant, des chapitres 7 jusqu'à la fin, dans les visions prophétiques de Daniel. Nous avons vu déjà le chapitre 7 la fois dernière, la vision des 4 animaux, et aujourd'hui, Daniel a la vision d'un bélier et d'un bouc. Et nous sommes donc au chapitre 8, verset 1, que je commence, donc la vision du bélier et du bouc. La troisième année du règne de Belshazzar, moi, Daniel, j'eus une vision, en plus de celle que j'avais eue précédemment. Lorsque j'eus cette vision, il me sembla que j'étais à Suse, la capitale, dans la province d'Élam, et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve de Laï. Je levai les yeux, je regardai, et voici, un bélier se tenait devant le fleuve, et il avait des cornes. Ses cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre, et elle s'éleva la dernière. Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'occident, au septentrion et au midi. Aucun animal ne pouvait lui résister, et il n'y avait personne pour délivrer sa victime. Il faisait ce qu'il voulait, et il devint puissant. Comme je regardais attentivement, voici, un bouc venait de l'occident et parcourait toute la terre à sa surface, sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve, et il courut sur lui dans toute sa fureur. Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les deux cornes sans que le bélier ait la force de lui résister. Il le jeta par terre et le foula, et il n'y eut personne pour délivrer le bélier. Le bouc devint très puissant. Mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. De l'une d'elles sortit une petite corne, qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les foula. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. J'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait, « Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés ?» Il me dit, « 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. » Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre. Voici, quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi, et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'œil, et cria et dit, « Gabriel, explique-lui la vision. » Il vint alors près du lieu où j'étais, et à son approche, je fus effrayé, et je tombai sur ma face. Il me dit, « Sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. » Comme il me parlait, je restai frappé d'étourdissement, la face contre terre. Il me toucha où je me trouvais. Puis il me dit, « Je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Le bélier que tu as vu, et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Le bouc, c'est le roi de Javan. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation mais qui n'auront pas autant de force. À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur, et il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement. Et il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. Moi, Daniel, je fus plusieurs jours languissant et malade. Puis je me levai et je m'occupai des affaires du roi. J'étais étonné de la vision et personne n'en eut connaissance. Voilà, on peut découper ce chapitre en deux parties. Daniel a une vision qui décrit les chapitres des versets 1 à 14 et ensuite il reçoit l'interprétation par l'ange Gabriel de cette vision des versets 15 à 28. Mais tout d'abord, nous lisons dans l'introduction que cette vision que Daniel a eue se passe la troisième année du roi de Belshazzar, c'est-à-dire 2 ans après la vision du chapitre 7 qui avait lieu la première année de Belshazzar. Donc là, on est avant le chapitre 5, même le chapitre 5, oui, c'est cela, on est avant l'époque de Darius, parce qu'on est encore là sous l'empire babylonien, et pas encore sur l'empire des Mèdes et des Perses. Alors, le chapitre, les premiers versets situent un peu l'endroit où Daniel se trouve, et 3 mots fixent dans notre mémoire le départ géographique de la vision. Il nous est parlé de la ville de Suse, il nous est parlé aussi de la province d'Élam, il nous est parlé du fleuve Oulaï. Alors Suse était la capitale de l'empire des Mèdes et des Perses, et cette ville se trouvait à 400 km à l'est de Babylone. Et nous lisons dans le verset 2, « Lorsque j'eus cette vision, il me sembla que j'étais à Suse, la capitale de la province d'Élam, et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve Oulaï. » Puisque Daniel se voyait lui-même dans cette vision, il est fort probable qu'il n'était pas là physiquement comme Ézéchiel a eu la vision du temple dans le chapitre 8 à 11, et il a la vision du temple, mais il est avec les compagnons, il est avec les anciens de Babylone. Alors il est possible qu'il n'est pas, il est encore à Babylone et qu'il a cette vision qu'il se trouve à Suse. Alors, regardons cette première vision du bélier, versets 3 à 4. Nous lisons, « Je levai les yeux, je regardai, et voici, un bélier se tenait devant le fleuve, et il avait des cornes. Ses cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre, et elle s'éleva la dernière. Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'occident, au septentrion et au midi. Aucun animal ne pouvait lui résister. Il n'y avait personne pour délivrer sa victime. Il faisait ce qu'il voulait, et il devint puissant. » Dans sa vision, Daniel voit un bélier donc avec 2 cornes. Un bélier qui se tient devant le fleuve et il y a une corne qui est plus grande que l'autre. Celle qui est plus grande a poussé la dernière. Et on voit que ce bélier avec ses 2 cornes frappe dans 3 directions, donc à l'ouest, au nord et au sud. Qui est ce bélier? Que représente-t-il? Eh bien, nous regardons au verset 20 du même chapitre. Et l'ange Gabriel dit à Daniel, « Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. » Voilà, identifier le bélier. On sait qu'au cours de l'histoire, les événements historiques nous l'apprennent, que 2 nations vont former un seul empire, c'est l'empire des Mèdes et des Perses, et qui vont causer la chute de Babylone. Au début, les Mèdes, dans cet ensemble mixte, vont avoir la prééminence, mais par la suite, les Perses vont prendre l'avantage. C'est ce que symbolise la 2e corne qui est plus grande que la plus petite. Et nous avons déjà vu ça dans l'ours, dans Daniel chapitre 7, verset 5, où l'ours se tenait de côté pour montrer la prédominance de la domination perse dans cet ensemble mixte. Alors, il faut savoir que le bélier a été l'emblème des Perses. On trouvait un bélier sur les pièces de monnaie. Le bélier était gravé sur les pièces de monnaie. Le casque des empereurs et des généraux avait un bélier aussi dessus, et les rois perses se faisaient précéder par une figure de bélier quand ils partaient au combat. J'ai oublié de dire que le chapitre 8 est écrit en hébreu, contrairement au chapitre précédent, et certainement il y a là une indication pour nous montrer que l'auteur va ouvrir une nouvelle voie, une nouvelle section de son livre, et que l'intérêt va se fixer plutôt sur Israël et sur le peuple élu et sur la terre promise. On va bien sûr mentionner les nations, les païens, mais alors qu'avant, la vision du chapitre 7 nommait quatre nations païennes, là, le nom va être réduit seulement à deux. Donc, le bélier, symbole de l'Empire perse, et là, Daniel a eu cette explication par l'ange Gabriel au verset 20 du même chapitre 8. Alors on voit que ce bélier n'est pas tout doux, et on sait que le bélier est un animal agressif qui fonce tête baissée. Et on le voit effectivement foncer, frapper dans toutes les directions. Hein. On le voit sauf à l'est. Et donc, ce bélier, c'est les Mèdes et les Perses qui ont conquéri beaucoup de régions. Alors, surtout sous le règne de Cyrus. Et ils se sont emparés du Caucase, de l'Asie mineure, vers le nord. Ils se sont aussi emparés de Babylone et de la Syrie vers l'ouest. Ils se sont emparés de l'Arabie et de l'Égypte vers le sud, mais ils n'ont pas pu s'étendre vers l'est. Et cela était déjà symbolisé par la vision du chapitre 7, où cet empire des Mèdes et des Perses était représenté par un ours, l'ours qui était sur le côté, mais qui avait seulement trois côtes dans la bouche, pour signifier certainement qu'ils avaient conquis le nord, l'ouest et le sud, mais pas l'est. Et nous lisons aussi dans Daniel chapitre 8, verset 4, nous lisons qu'il est dit à ce bélier, « Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident, septentrion et midi. Aucun animal ne pouvait lui résister. Il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait et il devint puissant. » Et quand on regarde au chapitre 7, où le même bélier est représenté cette fois-ci par l'ours, on voit qu'il est dit, chapitre 7, verset 5, vous avez juste à tourner, « Et voici, un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait trois côtes dans sa gueule, entre ses dents, et on lui disait, « Lève-toi, mange beaucoup de chair. » Voilà donc les Mèdes et les Perses qui vont conquérir une grande partie du monde de l'époque. L'histoire confirme donc avec certitude ce que Daniel voit au cours de cette vision prophétique. Dieu nous révèle des choses qui ne sont pas encore arrivées. Et nous devons prêter attention à ce qui est dans sa parole, pour être avertis, pour être sur nos gardes, pour être fortifiés quand ça arrivera, pour ne pas être déboussolés aussi. Mais on voit par la suite que la vision change et un bouc arrive de l'ouest et il va tellement vite que ses sabots ne touchent pas la terre. Et là, Daniel a la vision de ce bouc, des versets 5 à 8. Et nous lisons, « Comme je regardais attentivement, voici, un bouc venait de l'Occident et parcourait toute la terre à sa surface sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve et il courut sur lui dans toute sa fureur. Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les deux cornes, sans que le bélier ait la force de lui résister. Il le jeta par terre et le foula, et il n'y eut personne pour délivrer le bélier. Le bouc devient très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. Quatre grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux quatre vents des cieux. L'un s'en va et un autre arrive, et toujours avec la même fureur, aussi bien le bélier que le bouc qui arrive alors. Et alors, on le voit qui vient de l'Occident. Et qui est ce bouc qui venait de l'Occident? Là encore, on peut lire le verset 21 du même chapitre. L'ange Gabriel dit à Daniel qui est ce bouc, et nous lisons le verset 21. Le bouc, c'est le roi de Javan, c'est-à-dire le roi de Grèce, c'est la Grèce. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi, c'est-à-dire Alexandre le Grand. Il nous a dit que le bouc allait tellement vite que ses sabots ne touchaient pas la terre. Et ça fait allusion aux conquêtes d'Alexandre qui ont été très rapides. En 3 ans, Alexandre avait conquis tout le Proche-Orient. 3 ans seulement. Et l'étendue de ses conquêtes est rendue par l'expression « toute la terre à sa surface ». Et on peut lire qu'Alexandre s'est mis à pleurer tellement il n'y avait plus d'endroits à conquérir. Donc, le bouc que nous voyons, il était déterminé à détruire le bélier à 2 cornes. Alors, il s'est acharné furieusement contre lui, il lui a brisé ses 2 cornes, il a même piétiné son corps et il n'y avait personne pour l'empêcher, pour délivrer le bélier. Et cela a signifié la défaite complète de l'empire médo-perse devant les Grecs. Un empire s'en va, un autre vient. Mais nous lisons ensuite dans le verset 9, verset 8, le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. Alexandre est mort subitement à l'âge de 33 ans. Il avait le paludisme et bien sûr tous les excès. Et ses 4 généraux se sont partagés son grand empire. Alors, et 4 régions distinctes. Donc 4 grandes cornes, ce sont les 4 généraux. Et puis les 4 vents des cieux, ce sont les 4 régions distinctes que ces 4 généraux se sont partagés. Donc Cassandre va s'attribuer la Macédoine. Lysimaque va s'attribuer la Thrace et l'Asie. Séleucus ou Séleucos va s'attribuer la Syrie. Et Ptolémée va s'attribuer l'Égypte. Les 4 cornes qui vont surgir de cette corne qui s'est brisée. Et encore une fois, les Écritures, tout se passe exactement comme les Écritures l'avaient annoncé. Ce que les hommes ne peuvent connaître qu'une fois que l'événement est survenu, Daniel l'a vu bien longtemps auparavant dans une vision prophétique. Regardons un peu ce que nous dit Daniel, chapitre 4. Retourne un petit peu, verset 17. Lorsque Nebuchadnezzar a eu le songe du grand arbre et que Daniel lui a expliqué, alors je commence... Donc il va être le tronc de l'arbre va être scié, mais son tronc va rester en terre. Et on lit au verset 15, mais laissez en terre le tronc, donc Daniel chapitre 4, verset 15, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait, comme les bêtes, l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné, et 7 ans passeront sur lui. Et verset 17 qui nous intéresse, cette sentence est un décret de ceux qui veillent, cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui lui plaît et qu'il élève le plus vil des hommes. La même idée est reprise un peu plus loin dans le même chapitre, où vous tournez la page au verset 25, on peut lire au verset 25 du chapitre 4 de Daniel, on te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera, comme au bœuf, de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. La même pensée est reprise encore un peu plus loin à la fin du verset 32, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches, que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Et au verset 35, Nebuchadnezzar va confesser, verset 35 du chapitre 4, « Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise, que fais-tu ?» Alors Dieu élève les rois, les empires, mais il les abaisse aussi. Et on ne t'a pas dit. Alors on sait que le bélier a été vaincu par le bouc. On ne dit pas qui a vaincu le bouc dans cette partie là, de la prophétie. Mais nous pouvons être certains que Dieu a brisé cette corne. Cette grande corne qui représentait l'empire des, des Grecs, voilà, Alexandre, qui a été brisé par Dieu alors qu'il a conquis le monde avec une rapidité. Et donc, Daniel maintenant va avoir, continue sa vision, et il voit, donc après que les quatre cornes s'élèvent, il voit que, au verset 9, il va nous parler d'une petite corne qui va sortir d'une des quatre cornes. Et donc, voyons un peu ce qu'il dit des versets 9 à 14 sur cette petite corne qui sort d'une des quatre cornes. Alors, nous lisons « De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les foula. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. J'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait, « Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés ?» Et il me dit, « 2300 soirs et matins. » Puis le sanctuaire sera purifié. Alors, quand on regarde un peu au chapitre 11, au verset 16, on voit que le plus beau des pays, c'est la terre promise. Alors, on peut lire chapitre 11, verset 16. On tourne la page. Chapitre 11, verset 16. Celui qui marchera contre lui fera ce qu'il voudra, et personne ne lui résistera. Il s'arrêtera dans le plus beau des pays, exterminant ce qui tombera sous sa main. La même expression revient au verset 41 du même chapitre. On peut commencer au verset 40 du chapitre 11. Au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui, et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers et avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Il entrera dans le plus beau pays, le plus beau des pays, et plusieurs succomberont. Mais Édom, Moab et les principaux des enfants d'Ammon seront délivrés de sa main. Le plus beau pays, le plus beau des pays, c'est Israël. La Palestine, c'est le plus beau des pays parce que c'est le pays où on adore Dieu, on rend culte à l'Éternel. Mais malheureusement, le plus beau des pays était situé entre deux principales dynasties grecques montantes. Au nord, il y avait le royaume des Séleucides. On a vu que Séleucus était un général d'Alexandre. Et puis au sud, il y avait le royaume des Lagides, les Ptolémées. Voilà, parce que le général Ptolémée était le fils de Lagos, d'où le nom des Lagides, ou l'empire des Ptolémées. Donc ils étaient entre les deux puissances montantes là, grecques, et donc quand vous êtes au milieu de, vous êtes l'objet de rivalité, vous êtes l'objet de convoitise. Alors quand la Palestine a été sous les Ptolémées de 305 à 198 avant Jésus-Christ, c'était une période de tranquillité, il n'y a pas eu de problème. Mais lorsqu'elle est passée sous la domination des Séleucides en 198-164 avant Jésus-Christ, eh bien, elle a connu la persécution sur un roi qu'on appelait Antiochus. 4. Épiphane. Et Épiphane veut dire illustre. Cet homme se prenait pour un dieu. Et ça sera de 175 jusqu'à 163 avant Jésus-Christ. Et justement, c'est lui, la petite corne, qui va sortir de l'une des quatre cornes du verset 9. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Cette corne qui était petite au départ va s'agrandir, va devenir très puissante et son pouvoir va s'étendre vers le sud, vers l'est et vers le plus beau des pays, vers Israël. Alors, Antiochus va commencer à ravager l'Égypte. Il va ensuite se tourner vers l'est et s'emparer de quelques régions de l'est, l'Arménie en particulier. Il va envahir plus tard le pays de Canaan. Et nous lisons au verset 10, « Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée des étoiles. Elle les foula. » Vous remarquez que dans ce chapitre 8, il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de conquêtes furieuses. Le bélier faisait ce qu'il voulait, personne. Il devient puissant. Ensuite, le bouc a pris sa place, mais toujours avec la même fureur de conquérir, d'abattre. Et voici que cette petite corne aussi a cette même fureur de détruire et de posséder. Eh bien, quand on lit Exode chapitre 7, verset 4 et Exode chapitre 12, 41, on voit que l'armée du Seigneur représente les tribus d'Israël, l'armée des cieux. Donc Antiochus va opprimer le peuple de Dieu. Les étoiles dont il est question, elle fit tomber à terre une partie de cette armée, verset 10, et des étoiles, et elle les foula. Les étoiles peuvent peut-être représenter les chefs religieux, peut-être les prophètes qui exhortaient les enfants du peuple de Dieu à rester fidèles au Seigneur. Eh bien, l'histoire nous apprend que Antiochus IV va piller le temple de Jérusalem. Il va interdire les sacrifices. Il va interdire l'observation du sabbat, la pratique de la circoncision et bien des fêtes juives. Il va brûler les écritures. Et en décembre 167, il va dédier le temple à Zeus olympien. Il va même sacrifier un porc, qui est un animal impur, sur l'autel, rendant ainsi le temple impropre à l'adoration. Et les juifs vont être obligés d'offrir des sacrifices qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Daniel, encore une fois, reçoit la vision prophétique de ces événements bien avant qu'ils se produisent. Dieu conduit l'histoire d'une façon qui nous dépasse. Et nous avons, frères et sœurs, là un Dieu qui connaît qu'il met en place, qui connaît qu'il va enlever aussi, mais dans nos, à une moindre échelle, il connaît notre vie, il connaît le jour où on va naître, le jour où on va décéder. Il tient notre vie entre ses mains. Il n'y a pas de surprise, Dieu n'a pas de plan B. C'est lui qui conduit l'histoire du monde et en particulier notre histoire, si nous sommes ses enfants. Donc nous n'avons pas à avoir de crainte, le psaume 139 nous rappelle ça, qui nous entoure par derrière et par devant, que tous les jours de notre vie sont inscrits dans son livre avant même qu'aucun d'eux n'existe, que c'est lui qui nous forme dans le sein maternel d'une façon extraordinaire. Et quel que soit l'endroit où nous sommes, même si nous allions à l'extrémité du monde ou au plus profond des entrailles de la terre, Dieu est là, sa main nous conduirait. Il n'a pas de ténèbres pour lui. Donc nous pouvons nous confier en ce Dieu qui conduit l'histoire. C'est vrai que les personnes qui oppriment le peuple de Dieu semblent régner longtemps, et Antiochus a prospéré, nous le lirons plus tard, mais il y a un temps où Dieu dit stop. Et vous voyez, aucune main des fois n'arrête ces gens-là, c'est la main de Dieu qui dit stop. Voilà. Alors, lisons les versets 13 à 14. Donc, c'est toute une persécution des Juifs, et voilà, au verset 13, Daniel entend quelque chose. J'entendis parler un saint. Il entend un échange entre deux anges. J'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait, « Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés ?» Il me dit 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Voilà, verset 14, 2300 soirs et matins. Si on considère qu'une année est composée de 360 jours, quand on fait le calcul 2300 soirs et matins, eh bien, certains estiment que ces 2300 soirs et matins correspondent à 6 ans et 4 mois. Et on voit, l'histoire nous montre ça aussi, que de 171 avant Jésus-Christ jusqu'à 165, eh bien, Antiochus Épiphane a persécuté les Juifs. Et il a commis toutes sortes d'abominations. Et au cours des dernières années, les trois dernières années et demie de cette période, les sacrifices païens furent offerts dans le temple. Mais des gens qu'on appelle des Maccabées, Judas Maccabée en particulier, vont se révolter. Jérusalem sera délivrée. Libéré, le temple va être purifié en décembre 164, 3 ans exactement après sa profanation. Donc si on compte une année comportant 360 jours et qu'on fait le calcul des 2300 jours, on se retrouve à 6 ans et 4 mois. D'autres estiment que ce n'est pas une période aussi longue, et pour faire coller à ces 3 ans de libération après la profanation. Ils estiment qu'il faut plutôt lire que chaque soirée matin représente un jour, non pas un jour, mais font plutôt référence aux sacrifices qui sont offerts, un le soir, un le matin. Et ces sacrifices ont été interrompus par Antiochus, Épiphane. Et donc, avec deux sacrifices quotidiens, les 2300 offrandes devraient plutôt couvrir 1150 jours, c'est-à-dire 3 ans, plus 70 jours. Et justement, c'est la période passée entre la profanation du temple par Antiochus, le 16 décembre 67 avant Jésus-Christ, à sa restauration et à sa remise en état par Judas Maccabée à la fin 64, début 63, 3 ans. Dans tous les cas, les 2300 soirées matin se sont accomplies comme la parole de Dieu l'avait prévu. Et Antiochus va décéder aussi, pris de folie. Voilà une corne encore qui va tomber. Alors, par la suite, des versets 15 jusqu'à la fin, c'est l'ange Gabriel qui va donner l'explication à Daniel de sa vision. Daniel a pu expliquer la vision de Nebuchadnezzar, les visions, mais il ne peut pas expliquer sa propre vision. Il a besoin de l'aide de l'ange Gabriel. Et on lit au verset 15, « Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre, voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. » Quelquefois, la Bible emploie cette périphrase « quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme » pour parler d'un ange. « Voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'œil. Il cria et dit « Gabriel, explique-lui la vision. » Donc, ce quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme, c'était un ange, et c'était l'ange Gabriel, rappelez-vous, qui avait été envoyé vers Zacharie et Élisabeth, qui avait été envoyé à Marie, qui révèle les voix de Dieu. Et quelle peut être la voix d'un homme qui commande un ange? C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui commande à l'ange Gabriel, explique-lui la vision. Et ça préfigure aussi, ça annonce l'incarnation future de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est cette voix du Seigneur Jésus qui dit à Gabriel, explique-lui la vision. Alors qu'est-ce qui se passe? Versets 17 à 19, il vint alors près du lieu où j'étais, et à son approche, donc quand l'ange Gabriel s'approche de Daniel, je fus effrayé, et je tombai sur ma face. Il me dit, « Sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. » Comme il me parlait, je restai frappé d'étourdissement, la face contre terre. Il me toucha et me fit tenir debout à la place où je me trouvais. Puis il me dit, « Je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. » Donc, l'ange Gabriel s'approche de Daniel. Et vous savez, si l'ange Gabriel s'approchait de nous, ou même si nous approchions du trône de Dieu, on tomberait aussi, tellement conscient dans notre indignité devant des êtres qui sont sans péché. Et là, il ne s'agit que de l'ange, mais Daniel est conscient de son indignité devant un être comme l'ange Gabriel, qui est sans péché. Il est effrayé, il tombe sur sa face. Malgré ce trouble, l'ange lui parle et lui dit, au verset 17, « Sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. » On a vu que la petite corne était Antiochus Épiphane, et donc la fin dont il est question, ce n'est pas la fin du monde, mais cette fin va être la fin de la période troublée, la fin de la période troublée sous le règne d'Épiphane et la fin de la période troublée des Juifs avant l'avènement du royaume messianique. Parce que les Juifs vont être, on appelle ça le temps des nations, vont être sur le châtiment divin à cause de leurs péchés. Et donc, ils vont connaître beaucoup d'épreuves. Et Daniel en parle là, et nous l'avons vu. On voit donc, il dit encore au verset 19, « Je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. » Dieu soumet son peuple à une discipline divine à cause de sa désobéissance. Et nous avons lu déjà, le verset 20 nous disait, le bélier que tu as vu, nous avons lu déjà ça, le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, donc l'ange Gabriel développe, ce sont les rois des Mèdes et des Perses, le bouc c'est le roi de Javan, c'est-à-dire la Grèce, la grande corne entre ses yeux c'est le premier des rois, Alexandre, Les quatre cornes se sont élevées pour remplacer cette corne brisée. Ce sont quatre royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. Alexandre a conquis une grande partie du monde d'alors, mais ses quatre généraux n'ont pas eu la même force que lui, n'ont pas eu la même popularité. Et on lit au verset 23, « À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. » Donc il nous parle d'Antiochus. « Sa puissance s'accroîtra, non par sa propre force, parce que Dieu le veut, c'est la volonté de Dieu. Il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement, et il s'élèvera contre le chef des chefs, mais sera brisé sans l'effort d'aucune main. » Et Antiochus va même se faire passer pour Dieu, il va réclamer l'adoration qui est réservée à Dieu seul. Il va agir par ruse. Bien sûr, Antiochus, c'est cette petite corne qui nous rappelle bien des petites cornes qui ont persécuté le peuple de Dieu. Peut-être un peu au début Pharaon, mais on peut penser à Hitler aussi, à bien des gens qui se sont dressés. On peut penser à la petite corne aussi de Daniel chapitre 7. Bien des petites cornes vont se dresser contre le peuple de Dieu, vont les opprimer, vont se faire passer pour Dieu, vont demander l'adoration. On le voit aussi dans l'Apocalypse. Mais toutes ces petites cornes seront un jour brisées. Et il nous est dit, à la fin du verset 25, « Mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. » Et donc Antiochus est mort, il est devenu fou, sans l'effort d'aucune main humaine. C'est la main de Dieu qui agit et qui brise ses cornes. Et il nous est dit après, au verset 26, « Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. » La parole de Dieu, c'est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. Ça ne veut pas dire qu'il faut... Comment dirais-je? L'ange n'a pas dit à Daniel, eh bien, il ne faut pas que les gens le sachent. La preuve, aujourd'hui, nous savons. Mais à l'époque aussi, les Juifs avaient les écrits de Daniel. Et quand ils ont été persécutés sur Antiochus, ils ont pris courage en lisant ce chapitre de Daniel. Parce qu'ils se sont rendus compte que s'ils étaient persécutés, c'était juste pour un temps. Et que Dieu allait mettre fin à cette persécution. Donc, retiens cette vision parce que certains en auront besoin pour après. Et ça nous rappelle que la parole est utile pour nous aussi. Il y a beaucoup de choses que Dieu nous révèle. Nous apprenons à le connaître, nous apprenons à connaître ses promesses. Nous apprenons à connaître ses voies. Nous apprenons aussi qu'il y aura des persécutions. Prenez courage, moi j'ai vécu le monde. Nous apprenons comment le monde sera, mais nous savons aussi que Dieu mettra un terme à cela. Remarquez aussi, c'est peut-être une petite parenthèse, que la parole de Dieu s'explique par elle-même. Et que quand Dieu révèle sa volonté, pratiquement dans la Bible, il y a beaucoup d'histoires. Demandez à un enfant, donnez à un enfant un livre d'histoire, il va commencer par lire le début pour connaître toute l'histoire jusqu'à la fin. Dieu se révèle aussi par un flux continu d'idées qui sont liées les unes avec les autres. Et certaines fois, les gens n'avaient qu'un seul livre pour connaître la volonté de Dieu. Ils n'avaient pas encore tous les livres. Tout soit à nous encourager, frères et sœurs, à lire la parole de Dieu du début à la fin, à ne pas sortir un verset et lui faire dire ce que nous voulons qu'il dise, mais le garder dans son contexte, regarder ce qui vient avant et ce qui vient après, pour comprendre la parole, ce que Dieu voulait dire à ces personnes à cette époque. Et après, comprendre ce que Dieu veut que nous comprenions aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie pour nous aujourd'hui. Donc il est important de lire la parole, un livre dans sa totalité, dans son contexte, et ne pas sortir des versets du texte, et de comprendre le contexte, de le mettre dans son contexte avant, après, et puis dans la globalité aussi de la révélation de la parole de Dieu dans son livre. Donc, un encouragement pour nous qui avons aujourd'hui chacun une Bible chez nous à la lire dans sa totalité. Des petites épîtres peuvent se lire en entier. Certaines parties s'expliquent par ce qui est avant ou ce qui est après. Donc, ne pas seulement lire un verset par là, chercher à voir ce que ça veut dire dans une autre partie d'un livre, mais déjà comprendre ce que ça veut dire dans le livre entier, comme Daniel le fait et comme c'est révélé à Daniel. Voilà. Et vous voyez que dans ce chapitre 8, comme dans le chapitre 7, il était question d'animaux horribles. Et c'était des animaux qui sortaient de la mer, qui n'étaient pas aquatiques et pourtant qui avaient l'aspect d'animaux terrestres. On voit un bélier qui est terrible, on voit un bouc qui est terrible, on voit cette petite corne aussi qui est terrible, qui persécute, qui s'élève contre Dieu, qui fait arrêter les sacrifices, qui fait arrêter l'adoration de Dieu. Et qu'est-ce qui va vaincre tout cela, cette petite corne? Non pas un animal, mais l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui a été immolé. Il les a vaincus à la croix. Il a triomphé d'eux. Et j'aimerais qu'on termine par Apocalypse chapitre 5, versets 12 à 13. Pour voir que ce n'est pas un bélier ni un bouc qui a le dernier mot, mais c'est l'agneau de Dieu qui a été immolé. Apocalypse chapitre 5, versets 12 à 13. On peut commencer au verset 11, Apocalypse chapitre 5, verset 11, dernier livre de la Bible. Verset 11, « Je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen, et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Eh bien, que frères et sœurs, nous puissions lire cette parole, la méditer dans nos cœurs, et nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Et nous chantons ce cantique qui nous dit que c'est la parole du Seigneur qui est notre réconfort dans ces temps d'épreuve, comme elle a été pour tous les croyants de tous les temps. Et donc, pour triompher dans les combats, numéro 151 sur les ailes de la foi. Quelle est notre force ici-bas? Quelle est la divine lumière qui nous dirige et nous éclaire dans la nuit sombre de l'erreur? C'est la parole du Seigneur. Et le verset 5, la cinquième strophe nous dit « Cette parole habite en moi, éclaire et ranime ma foi. Dans les combats, sois ma défense. Dans les dangers, ma délivrance. Et que par toi, je sois vainqueur. Cette parole du Seigneur. » C'est la vérité. C'est elle qui nous dirige. Eh bien, nous pouvons nous tenir debout pour entonner avec vigueur ce cantique «